je vois que tu fais une association extrêmement intéressante, en effet, à propos de ce deuxième fruit. Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit est reçu, ici, tu vois, est reçu, tu vois, sous forme de flamme de feu. Un petit peu comme on va recevoir ensuite, la fois suivante, le corps eucharistique du Christ. Et on dit toujours qu'il faut d'abord se confesser et après communier. Effectivement. Donc, ce passage du fait que j'ai donné ce que j'étais, que j'ai confessé ce que je vivais, que j'ai donné mes actes, que j'ai donné mon indignité, que j'ai donné mon humiliation, que j'ai donné tout ça, que Jésus m'a donné la sienne d'humiliation, sa demande de pardon, que le Père m'a donné son amour pour le Verbe de Dieu. Alors à ce moment-là, je vis de ce passage du don à l'accueil. Et je me mets dans la disposition d'accueil. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la personne de la Sainte Trinité qui est le résultat de l'unité du Père et du Fils. Le Père et le Fils, comme l'époux et l'épouse se rejoignent, ils disparaissent dans l'amour, et je sais bien qu'il n'y a plus que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne fait rien du tout. Il n'y a que le Père et le Fils, comme l'époux et l'épouse, qui sont actifs. L'unité des deux n'est pas active dans l'amour. Elle est passive. C'est ça l'Esprit Saint. La passivité substantielle d'amour en Dieu, c'est l'Esprit Saint, vous le savez bien. Il faut vivre ça. C'est un fruit du sacrement de confession. Et vivant ça, à ce moment-là, je peux à nouveau répondre aux cloches qui sonnent la messe suivante. Il y a une complémentarité entre le fruit de l'Eucharistie et le fruit de la confession. Vous voyez bien? Puisque le fruit de l'Eucharistie, ça va être de mettre dans un état de don, tandis que le fruit de la confession va être de mettre dans un état d'accueil. Et c'est la rencontre du don et de l'accueil, vous savez, qui fait la perfection et la dynamique de la charité. Bon, ensuite, verset 24, Père, qu'il soit avec moi. Verset 24. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi, pour qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Bon, le Père avait aimé le Fils de Dieu avant la création du monde, et ici, dans ce troisième passage, donnant le fruit, Jésus indique que un des fruits, un des buts de l'Eucharistie, c'est que ceux qui sont dans le monde soient sauvés, soient associés à la gloire que lui, il a fait avant. Donc, autrement dit, il y a entre le fait que ce que Jésus vivait avant, ce que le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité vivait avant la création du monde. Et maintenant qu'il fait la prière, il y a eu entre les deux ce désir que tous les hommes vivent ce qu'ils vivaient en tant que deuxième personne de la très sainte Trinité. Et entre les deux, il y a eu l'incarnation. Cette incarnation a lieu ici, puisqu'au moment de la communion, je réincarne ce mystère de Verbe de Dieu face au Père, demandant pardon pour les péchés du monde. Et donc le troisième fruit, c'est le passage de cette réincarnation du Christ demandant pardon à la rédemption. Et oui, ça c'est plus... Souvent, on aime bien regarder le mystère de Noël, l'incarnation, Dieu prend chair dans le sein immaculé de la Vierge, et on oublie complètement ce passage de l'incarnation à tout de suite la rédemption. Immédiatement, il est rédempteur. Grâce au sacrement de confession, si je fais oraison après, vous allez vous rendre compte que vous allez sentir tout de suite une intimité avec le Christ. Lorsqu'il vit au moment de son incarnation, tout de suite, il devient rédempteur, souffrant, martyr, broyé, écrasé, gethsémaniste. Et on l'éprouvera. Vous voyez, c'est ce passage de l'amour de Jésus, Dieu et homme, à l'amour de Jésus, entièrement plaie, vivante, agneau de Dieu. Parce qu'il y a ce désir que le Rédempteur, c'est l'agneau de Dieu, et de vous entendez bien que l'agneau de Dieu, il est déjà ici, et le fruit, c'est de faire passer ce mystère de l'incarnation en tant que Rédempteur au mystère de l'incarnation en tant qu'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, il est dans la gloire. Agneau de Dieu, il est dans la gloire. Et il veut que tous les hommes soient associés à cette gloire, à travers sa plaie. C'est ce passage-là qu'il faut vivre. On s'installe, comme on dit dans la prière par la communion, c'est dans tes blessures, cache-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Donc dans la blessure du cœur de Jésus, dans cette plaie, je suis transformé dans cette plaie. Et mais cette plaie est glorieuse. Elle est jubilante. Et ça, c'est l'incarnation finale. Ça, donc, c'est, oui, c'est le passage de l'incarnation à la rédemption finale. Cette plaie est jubilante. Et alors, donc, je rentre, et avec tous les pécheurs, j'essaye de rentrer autant qu'il est possible pour moi de rentrer. Ça, voilà tout ce qu'il y a dans la reste. Vous avez ensuite, Père Saint, garde-les en ton nom, qu'ils soient un comme nous, pour qu'ils aient la joie en plénitude. Versets 11 à 13, c'est le sacrement de la joie. À ce moment-là, il est bien évident que vous devenez, du coup, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, co-rédempteur. Parce que vous allez vivre ça avec tous ceux qui le vivent en même temps que vous, à tous ceux qui vivent dans la plaie du cœur du Christ, dans l'agneau de Dieu, et donc vous retrouvez toute l'Église, et vous faites passer donc l'Église de son stade d'Église d'activité militante à son activité suprême, qui est son activité de co-rédemptrice et de sauveuse, c'est pas joli, hein, du genre humain, de co-rédemptrice. L'Église est co-rédemptrice, mais elle ne sera co-rédemptrice que pour ceux qui vivent mystiquement ce fruit, qui vont passer donc de l'état de corps mystique de Jésus à travers ça, dans l'agneau de Dieu, à, et vous faites en sorte que vous revenez dans l'Église militante et vous redonnez cette efficacité à l'Église militante mystiquement à travers tous ses membres. Vous voyez, cette espèce de grande, qu'on soit un, comme le Père et le Fils sont un, et pour qui est la joie en plénitude. Père, versets 20 à 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est la première, évidemment, mutation que je vous avais expliquée et qui constitue l'arrêt du sacrement. C'est le passage donc de la mort à la résurrection. Père, donne-moi la gloire que tu m'as donnée. Donnez-moi la gloire, c'est quand le Père lui donne la gloire, c'est quand il ressuscite. C'est l'absolution, c'est la première partie de l'arrêt. Voilà donc les cinq présences réelles qu'il y a. Quand vous avez la pénitence, vous avez la présence réelle, vous avez fait la lumière, carrément, sur vous. Vous n'avez rien caché. Et donc vous passez de la lumière à l'amour. Présence du coup réel, du passage de la première à la deuxième procession de la Très Sainte Trinité. Voilà ce qui est présent réellement. Ce qui est présent aussi réellement, c'est le passage de la mort à la résurrection dans le tombeau du Christ. C'est réellement présent là, quand vous faites pénitence. Troisième chose qui est présente, c'est que vous avez donné et du coup vous pouvez accueillir le fruit. Quatrième, etc. Oui. Voilà les présences réelles que vous avez dans la reste, mystiquement, présence réelle. Vous voyez, cette fois-ci, vous n'avez plus la présence réelle des cinq parties du corps mystique de l'Église, mais vous avez cinq manières de vivre de la mutation de la miséricorde de Dieu. Ça va ? Passage de la lumière à l'amour, passage du don à la grâce, passage de la présence de Jésus à la rédemption, passage donc de l'état de l'Église qui agit à l'état de l'Église co-rédemptrice, martyr. Bon, maintenant, après cette reste, à partir, voilà ce qui est présent réellement, quand vous faites pénitence. C'est beau de savourer cette présence. C'est bien de savourer cette présence pendant la pénitence. Et une fois que la pénitence est là, alors, c'est un beau fruit, magnifique, n'est-ce pas ? Alors, on va essayer de lui donner son fruit. Et on va presser le jus. Et une belle coupe. C'est les invités à ma vigne. Les invités à ma vigne, c'est-à-dire la croix, sont les invités aux noces. Je vais trop vite. Eh oui, mais tu sais, si tu savais, si tu, on mettra des myriades et des myriades et des myriades de siècles à voir et à découvrir ce qu'on a vu dans une seule bénédiction sacerdotale qu'on a eue un jour sur nous par un prêtre qui est complètement idiot sur la terre. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a tout ça. Moi, je ne sais pas. Et en plus, la sainteté, c'est... De quoi? Tu voudrais savoir quels sont... Je reprends les cinq modes de la présence réelle.
Je demandais quel est le mot cohérence de la dernière...
C'est la cohérence de l'Église. Vous comprenez, là, au moment de la pénitence, vous avez fait la lumière. Donc, vous avez fait la lumière sur vous. Très bien. Et la réalité qui apparaît, c'est que vous êtes du coup plongé dans la procession de lumière que le Père confesse face au Fils qu'il est le Père. Il est lumière. La lumière confesse face à la lumière qu'elle est lumière. C'est une confession éternelle, la relation entre le Père et le Fils. Ils confessent tout ce qu'ils sont, sans aucune tache, sans aucune ombre, sans rien cacher. C'est ça, la confession, c'est de rejoindre cette confession éternelle et incréée du Verbe dans son Père. Ils confessent qu'ils sont Dieu, un seul Dieu. Et du coup, ils s'aiment. Ils s'unissent dans une seule vie. Et cette unité d'amour, ce passage de la confession du Verbe dans le Fils, ce face-à-face dans la lumière, à l'amour qui fait que va jaillir l'Esprit Saint, c'est ce passage, cet instant éternel du passage qui est présent réellement dans la vie. Oui. Je peux vous l'expliquer autant que je peux, mais il faut essayer, bien sûr, de le voir. Sinon, on ne pige pas du tout. Et pareil, ici, j'ai donné tous mes péchés, je me suis donné moi-même. J'ai donné vraiment ce que j'avais de plus, moi. Parce que ce que j'ai fait de bien, ça ne vient pas de moi. Ce que j'ai fait de bien, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, mon père, moi, je fais du bien tout le temps. Évidemment, c'est confusé parce que les gens me critiquent et tout, et je comprends pas, quoi. Mais je l'offre, hein, oui. Et c'est curieux, oui. Enfin, voilà, enfin, je voudrais quand même demander pardon pour une conclusion pour tous les imbéciles qui ne comprennent pas. Non, alors là, tout ce que tu as fait de bien, ça vient pas de toi, ça vient de Dieu. Les seules choses qui viennent de toi, qui sont ta signature, c'est tes péchés. Ça, t'es sûr, ça vient pas de Dieu, ça. Donc, si tu donnes, toi, si tu donnes pas ce qu'il y a de plus inavouable, qu'est-ce qu'il y a de plus inavouable? C'est ce que tu as fait, c'est tes actes qui viennent de toi seul, séparés de Dieu. Qui est le plus ignoble. Parce que dès que je fais des actes séparés de Dieu, ben je perds mon identité. Je perds ma finalité, je perds mon origine, je perds tout. Je perds toute capacité d'aimer, je perds toute capacité de comprendre, je perds toute paix, je perds toute sérénité, je perds tout ça. C'est évident. Mais si j'ai tout ça, je ne vais pas le confesser. Bon. Si j'ai la sainteté, la sérénité, la lumière... Non, non. C'est-à-dire, j'ai mis le frein à main, la marche arrière, le crapaud pour pas pouvoir avancer. Voilà. Je confesse, je donne ce que je suis, je l'avoue. Ça, c'est moi. Je me confesse ce que je suis par mes actes. Et du coup, je passe du principe, comme je le fais sacramentellement, en union avec le Christ qui donne au Père tout, qui dit au Père, voilà ce que je vaux. En tant qu'humanité écrasée, parce qu'il ressent les sentiments des pécheurs, ça ne va jamais oublier ça. À ce moment-là, vous mettez dans un état d'accueil du pardon universel, éternel, incréé, absolu, définitif, efficace, fécond, pour tous les péchés du monde, du Père. Vous mettez dans un état d'accueil.
Je ne peux pas avouer ce qu'on est inconditionnel. Il y a des tendances qui viennent.
Oui, on n'accuse pas ces tendances, on dit...
C'est faute ou c'est...
Oui, oui.
Parce que je suis... On avoue des fautes reconnues, mais celles qu'on ne connaît pas.
Oui, c'est ça. Tu dis les actes qui... Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux donner des actes, des pensées. Une pensée, c'est clair, quoi. Elle est passée, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et puis, je suis resté bien un quart d'heure. Hein.
Mais avec nos déviations, est-ce que c'était vraiment une bêtise?
Ah ben oui, c'est plutôt, dis-moi, t'es pas... Hein.
Hein?
C'est pas toujours
évident.
Ça dépend.
Pardon? C'est déjà arrivé à la finalité.
Non, mais je vais te dire, le pécheur, le juste, pardon, donc le saint, pêche 7 fois par jour. Donc, simplement, bon, on est. On a si, nous avons des. Si, nous avons des.
Des moments où on est conscient.
Oui. Non, mais des actes évidents. Hein.
Oui, mais il y a ceux dont tu n'es pas conscient.
Non, mais ceux dont tu n'es pas conscient, laisse-les tomber.
Ah, laisse tomber. Voilà, c'est la question.
Ah, tu prends les actes qui sont nets.
Oui, d'accord.
Pensée,
plus tard, ce qu'on ne voit pas.
Parole, acte, ou, ah non, je ne veux pas faire ça, omission. Ça, ils sont nets, ceux-là. Oh, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas me taire. Voilà. Donc présence réelle d'une disposition de don universel à une disposition d'accueil universel.
Je m'excuse. Parce que en confessant ces fautes, normalement dans la diffusion, l'unité.
Normalement.
Si je ne reconnais. La question c'est, mais si je ne. S'il y a une erreur, une cause, je ne suis pas conscient,
oui.
Je serai peut-être de fusionner. Ou de...
Non. Que... Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait une faute. Il faut que cette faute soit lucide, qu'elle soit volontaire, qu'on sache que c'est une faute et qu'on veuille la faire quand même devant Dieu.
Mais par méprise, de se faire souffrir et ne pas le reconnaître.
Alors à ce moment-là, il n'y a pas la lucidité ni la volonté. Donc il n'y a pas de péché.
Ah, il n'y a pas de péché.
Non.
Si je te marche dessus, je vais faire exprès.
C'est une faute, mais c'est pas un péché parce que tu n'as pas fait exprès.
Ouais.
Mais il ne marche pas sur les pieds, j'en veux rien.
On n'est pas né pour ça.
Il faut être bien élevé. C'est toujours pareil, c'est une question de balade urienne. Voilà. Donc, il faut être déférent, c'est tout. Bon. La question du péché, c'est par rapport à notre vocation surnaturelle de sainteté, tu vois. C'est qu'on refuse la sainteté, on ne veut pas être saint. On ne veut pas être un saint. Alors du coup, allez, on se fait une petite compensation de temps en temps. Hop, c'est ça de gagner. Oups, Seigneur, demain. Hein. J'ai fait le vœu, mais... Heureusement qu'il y a 3 ans de noviciat. Voilà. Bon, alors, vous voyez, le passage du don à l'accueil, il est facile à repérer, puisque moi, je viens de donner et j'accueille le pardon. Mais plus profondément, il est lié à tous les dons et à tous les accueils divins. N'est-ce pas? Notamment le don que Jésus a fait, bien sûr, tous les péchés du monde, et l'accueil qu'il a fait du pardon et de la miséricorde éternelle du Père, mais également le don que le Père a fait de son amour au Verbe et l'accueil qu'il en a fait, et en même temps... l'accueil que l'Esprit Saint fait de l'unité du Père et du Fils, suprêmement. Ils sont tous présents là. C'est tout le domaine du passage du don à l'accueil qui est présent là, après, voyez bien, enfin, après l'absolution, quand je fais la pénitence, c'est présent. Et je peux rentrer comme dans une espèce d'immense tunnel qui s'élargit à tout, jusqu'à ce mystère de l'accueil. Et l'accueil en personne de l'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Ça va? C'est une espèce d'assimilation au Saint-Esprit, quelque part, dans son mystère de vie intérieure. Or, c'est dans l'Esprit Saint que je vais pouvoir recevoir l'Eucharistie après.
Ce qui m'inquiète, c'est pourquoi on va tous médiocres.
Pourquoi est-ce qu'on reste aussi médiocre? Alors, on sait qui. Pourquoi est-ce que je reste aussi médiocre? Parce que tu ne vis pas du mystère de la confession dans son fruit. Alors, tu peux remercier pour la réponse. Alors non, très bien. Vous voyez bien que vous avez en même temps une plus grande intimité avec le mystère du Christ. Vous échappez au New Age, n'est-ce pas? Puisque au lieu de vivre du mystère de la présence de Dieu dans le monde, dans la chair, dans le cosmos, incarnation, vous vivez beaucoup plus et de plus en plus du mystère de Jésus, rédempteur, qui s'est assimilé donc toutes les conséquences des péchés du monde dans la croix. Et vous commencez à rentrer dans l'intimité du Christ et non pas dans la vision du dragon et du faux prophète sur le Christ, qui a horreur de la croix, horreur de la souffrance, horreur du mystère de l'Eucharistie, horreur de tout ça, horreur du mystère de Marie. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas regardé les fruits, on ne regarde que la présence réelle, la réalité après le sacrement, la réalité de vie qu'il y a après, c'est ce que je porte après. C'est pour ça qu'on se sent d'ailleurs si léger souvent quand on est gosse, quand on fait sa première confession. On est là, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça, c'est parce que le sacrement est fini, on porte tout ça. C'est une présence de vie, vous comprenez? C'est une présence réelle. Bon, c'est génial de savoir et pouvoir rentrer, s'engloutir dans cette présence et savoir quelle est cette présence. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais de comprendre tout ça, ok? Et du coup, l'Église, ah, ça y est, je commence à comprendre ce que c'est que l'Église. L'Église, le corps mystique de Jésus, qui est la rencontre de tous les hommes qui sont sauvés avec ceux qui sont unis par l'Esprit-Saint. Et ben, eux, ben, justement, ils sont d'accord pour rejoindre la rédemption. C'est comme la présence de Dieu dans l'humanité, n'est-ce pas? Mais ils sont d'accord pour être les martyrs de notre monde et de souffrir pour que les autres soient sauvés. Et de souffrir, d'aimer jusqu'à en mourir, je veux dire, pour que les autres soient... Ça te fait choser. Normal, parce que souffrir... Alors, tu supprimes le mot souffrir, si ça te plaît, je veux bien. Tu remplaces, ça revient exactement au même. Aimer à en mourir. C'est ça. C'est la même chose. Aimer à en mourir. Vous voyez, je comprends que si Dieu s'est rejoint à un corps, à une famille humaine, c'est un peuple de Dieu, à une famille chrétienne, bon, à une communauté chrétienne. C'est pour cette communauté chrétienne, elle sauve le monde comme Jésus a sauvé le monde et elle doit rentrer dans le mystère du sépulcre. Elle doit rentrer elle-même collectivement dans le mystère du Golgotha. Elle doit rentrer collectivement dans le témoignage final. Et c'est au moment où elle sera supprimée, où elle sera détruite, où elle sera ridiculisée, où elle sera anéantie, où elle sera mise au tombeau, où elle sera méprisée, où on respectera d'ailleurs même pas son cadavre. C'est à ce moment-là qu'elle sauvera tous les hommes innocents de l'esclavage de Satan. Et il faut accepter que l'Église soit pauvre, petite, humble, ridiculisée, méprisée. Et qu'on en fait partie. On fait partie d'une communauté, et je vous assure, ce n'est pas le Lions Club. Pas du tout. C'est pas la pieuvre noire, traduisez l'éloge. Pas du tout. Pas la synarchie. C'est pas le dragon rouge. Non, non. Non, non. C'est le mystère du tombeau, le mystère du sépulcre, le mystère de la compassion. Et on vit ça petit à petit, vous voyez ? on comprend qu'on est petit reste, chargé, responsable des derniers moments de l'histoire pour que Jésus puisse revenir définitivement. Voilà ce qui est présent donc dans la ici, les mutations qui sont présentes dans vivantes, qui nous changent vitalement après la pénitence. Ça, c'est seulement la reste. Mais comme notre sujet, il ne reste plus qu'une demi-heure, comme le sujet, c'était les fruits, il va falloir regarder les fruits maintenant, mais je crois que c'est facile. Ils sont très faciles parce que là, pour le coup, on est très familiarisé, heureusement, et c'est vrai en plus, vous allez voir. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment une des choses les plus extraordinaires à vivre, c'est de vivre du fruit du sacrement. On presse tout ça, et ça donne un jus. Là, vous faites oraison. Alors là, tu presses tout ça ensemble. Et là, tu as raison. Voilà le fruit. Le fruit, ça lit dans l'Apocalypse. L'absolution. Celui qui donne l'absolution, c'est le prêtre. Celui qui reçoit l'absolution, c'est l'humanité. L'absolution incarnée en personne. C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est l'absolution. Vous voyez bien la différence inouïe, étonnante qu'il y a entre la création de la première femme, Ève, et la création de la dernière femme, l'Immaculée Conception. La première femme a été créée par Dieu sans péché. Mais Marie, elle a été créée par Dieu alors qu'elle était la fille de Anne et Joachim qui avait la transmission du péché originel et pourtant elle n'a pas été atteinte par la tâche du péché originel. Donc elle a été sauvée par le Christ. Donc c'est en raison d'une absolution qu'elle est substantiellement, personnellement l'Immaculée Conception. Si vous dites elle est l'Immaculée Conception, vous pouvez dire elle est l'absolution incarnée en personne. L'Immaculée Conception, c'est ça. C'est l'absolution en personne. Et il fallait qu'il n'y en ait qu'un seul être humain qui soit l'absolution en personne. Puisque cette absolution, elle est catholique. Elle est éternelle. Elle est universelle. Elle est efficace et elle est féconde. Et cette solution qui est donnée à elle, elle est donc pour tout le monde. L'Immaculée Conception, c'est pour tout le monde. Mais elle est la seule à avoir été créée en tant que telle. Ça va ? C'est pour ça que Satan n'aime pas le mystère de l'Immaculée Conception. Hein? Il n'aime pas ça, hein? Alors là, ça non. Hein. Et on le comprend parce que lui, il croit qu'il a un droit sur tous les dents de ce monde d'Ève. Parce qu'ils sont un peu chargés. Et effectivement, il a un droit sur eux. Et puis, il y a une descendante de la race d'Adam qui échappe à ce droit. En raison d'une miséricorde prévenante d'absolution éternelle du Père. Qui fait jaillir de la blessure du cœur de Jésus au moment où il ressuscite d'entre les morts. C'est de là que jaillit le mystère de l'Immaculée Conception. Et Satan ne peut pas avoir droit sur l'Immaculée Conception. Et les hommes ont droit à rentrer dans le mystère de l'Immaculée Conception pour échapper à Satan. Tous. Satan est pas content pas du tout. Alors, il remue le tiers des étoiles. À À partir du moment où le mystère de l'Immaculée Conception est proclamé, il remue le tiers des étoiles, il crache les sept idéologies athées. Historiquement, c'est comme ça. 1856, 1854, 1858, 1860, les premières idéologies athées commencent, n'est-ce pas, à ce moment-là. Le dragon rouge apparaît à partir du moment où le dogme de conception est déclaré. Jamais oublier ça. Alors, il remet des étoiles, et du coup, ces idéologies prennent les théologiens qui font une théologie à partir des idéologies athées, et du coup, pour transmettre la foi à partir d'une idéologie athée, hein. Tu peux courir, mes mères. Alors, l'absolution en personne, c'est l'Immaculée Conception. Je pense que ça, vous l'aviez déjà compris, et c'est très important, parce que ça nous fait comprendre qu'est-ce que c'est que le fruit. Le fruit, c'est que l'Immaculée Conception, elle a vécu en plénitude du fruit de l'absolution incréée et créée du Père pour le Fils crucifié. Et donc, le fruit, ce sera pour moi de revivre ce que l'Immaculée Conception a vécu dans ses sept manières de vivre, comment elle confesse qu'elle est, ce qu'elle est. Elle confesse devant le Père, elle confesse devant les hommes, elle confesse devant le démon, elle confesse devant le temps dans lequel nous sommes, elle confesse devant les péchés du monde, elle confesse qu'elle est l'Immaculée Conception, elle confesse ce qu'elle est, elle confesse qu'elle est l'absolution, elle confesse ce qu'elle est. Elle a une manière de confesser. Et moi, dans l'horizon qu'après, je suis trans, je réincarne, vous voyez, mon accueil finalement final, ma rédemption finale, mon église finale, mon église victimale finale, ma manière d'être corporellement et physiquement Esprit Saint, épouse de l'Esprit Saint. Immaculée Conception à chaque fois, hein. Ce sera de vivre de l'Immaculée Conception. Vous voyez bien qu'il y a donc une relation entre les cinq modalités de la présence de réelle, vivante, du mystère de la confession, et puis des cinq fruits. Ah, les cinq fruits, toujours à partir de l'Écriture. Premier fruit, chapitre 4, verset 6 de l'Apocalypse. L'Immaculée Conception. Devant le trône du Père. C'est Saint Jean hein, qui voit le trône, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bref, celui qui siège, quelqu'un, est comme une vision de jaspe vert ou de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône, alliance, est comme une vision d'émeraude, c'est chatoyant et c'est chaleureux. 24 sièges devant le tour, 888, le Christ. 24 sièges l'entourent, le trône, sur lequel sont assis 24 vieillards, vêtus de robes blanches, avec résurrection, avec des couronnes d'or, la charité sur leur tête, leur contemplation, du trône, du Saint-Père, sortent des éclairs, l'Esprit Saint, des voix et des tonnerres. Les éclairs, les voix et les tonnerres, c'est l'Esprit Saint. Que l'éclair, la présence de l'Esprit-Saint est toujours immédiate, foudroyante, n'est-ce pas? Immédiate. Des voix, c'est la présence, il est présent. Et des tonnerres, il est puissant dans son amour. Et sept lampes de feu brûlent devant lui, ce sont les sept esprits de Dieu. Comme ces sept, les voix, les tonnerres et la foudre passent à travers les 24 vieillards, ça va donner... Puisqu'il y a sept dimensions dans le Christ, puisqu'il est un homme, il va y avoir les sept dons du Saint-Esprit. Devant le trône, il y a une mer de cristal miroitante et transparente. C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, elle est là, limpide, comme une mer de cristal. Face au trône, face aux sept dons du Saint-Esprit qui jaillissent du cœur de Jésus, ressuscité d'entre les morts lorsqu'il jouit de la gloire du Verbe de Dieu dans le sein du Père. Et elle, Elle est cette mer, cet océan de miroir de cristallin limpide, lumineux, qui fait rejaillir cette vision. Et c'est ça la confession de l'Immaculée Conception, lorsqu'elle confesse ce qu'elle est face au Père. Et je vis avec elle cette confession. Deuxième fruit, chapitre 12. Face au dragon. Ainsi une grandiose apparue au ciel. C'est une femme. Le soleil, l'enveloppe, le mystère de la résurrection du Christ. La lune est sous ses pieds, le monde temporel. Elle domine et elle le tient. Et 12 étoiles couronnent sa tête. 3 × 4, donc. C'est l'amour de toute la création. 3, c'est l'amour. 4, c'est la création. Elle est donc la reine, quoi. Reine immaculée de l'univers. Elle est enceinte. Ah, l'immaculée conception passe au dragon. Vengeance. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Un second signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et à 10 cornes. Le fameux dragon de l'Apocalypse qui crache les blasphèmes et qui dit que Dieu n'existe pas. Face à l'athéisme, l'Immaculée Conception confesse ce qu'elle est. Face au dragon. Et il faut lire le chapitre 12 de l'Apocalypse pour voir comment elle le confesse. Face au dragon, elle est là. Et le dragon essaye bien sûr d'empêcher cette confession et surtout sa fécondité. Le dragon veut dévorer l'enfant dès qu'il va naître. Cette fécondité. L'Immaculée Conception, il le sait très bien, peut sauver tous les hommes d'un seul coup. Donc il va tout faire pour empêcher le fruit de cette confession numéro 2. Comment fait-elle? En adorant, il lui est donné 2 ailes pour partir au désert. Et ces 2 ailes représentent donc l'adoration et la contemplation. C'est le silence, l'adoration et la contemplation qui permettront à cette fécondité d'échapper à toute possibilité à Satan d'empêcher que ce fruit se fasse, qui vous montre bien que le fruit numéro 2 qui est ici est un fruit qu'on ne peut vivre et à qui on peut donner sa fécondité que par l'adoration et la contemplation silencieuse de ce mystère, tandis qu'il se renouvelle à travers vous. Et c'est en faisant ça, en adorant, en contemplant ce que l'Immaculée Conception fait face au dragon et face au trône, que tous les hommes reçoivent l'enfant innocent, mâle, rédempteur. Je crois que face au dragon, il faut savoir, après une confession, quand on fait oraison, se retrouver face au dragon en disant, c'est exactement, vous savez, la barbe du crapaud n'atteint pas la blancheur de la colombe. C'est sûr. Vous êtes face au dragon qui dit, vous êtes là. Vous êtes là, bon là, vous venez de recevoir l'absolution, vous faites votre pénitence, vous êtes face au trône, vous vivez un petit peu pendant 30 secondes, ou 48 secondes, 53 secondes plus exactement, le premier fruit, face au trône, vous êtes une mer de cristal avec elle, qui reflète le Père, le Christ, brûlant, c'est dans le Saint-Esprit, cette flambeau, etc. Puis après 53 secondes, vous retournez, tiens, il y a le dragon. Les 2 ailes du grand aigle. Et hop, et vous adorez, vous contemplez, et en faisant ça, vous lui écrasez, il ne faut jamais l'oublier, la tête. Vous lui écrasez la tête. La meilleure manière de mépriser le dragon, c'est d'adorer et de contempler. Et il faut mépriser profondément l'athéisme. L'athéisme, c'est ce ce que dit l'Écriture. C'est l'homme insipide et stupide qui dit que Dieu n'existe pas. Et c'est vrai. Dans le psaume aussi. Stultus. Incipiens in cordes suo dixit non est Deus. Il n'y a rien. Alors, elle écrase cet énorme dragon de l'athéisme. Par son adoration, sa contemplation, elle confesse comme ça qu'elle est l'absolution pour tous les hommes, qu'elle est l'immaculée conception donnée à tous les hommes, et que le dragon n'a accès à aucun enfant mâle. Alors, il est repoussé, si gros qu'il soit. Et on doit le faire, ça. C'est un exorcisme d'une puissance.
Et qu'est-ce qu'il en est pour les semaines s'il n'a pas assez ou malade.
Quoi? Non, mais tu sais, là, j'en connais que... Cette question est pertinente que l'Église n'a pas encore tranché. Chapitre 14, verset 14. Autre symbolisme de l'Immaculée Conception, c'est l'ange qui sort de l'autel. L'ange, c'est une créature. Et on voit au chapitre 14, verset 14, « Voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche sur laquelle était assis le Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, la charité suprême, dans sa vie contemplative, dans sa contemplation de chacun d'entre nous, et dans sa main une fossile aiguisée. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de moissonner. C'est la fin du monde. C'est la seule chose qui lui reste à faire. » Depuis la Pentecôte. Puis, un ange sortit du temple. Sorti du temple. Présence du Père. Et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta fossile et moissonne. » Car c'est l'heure de moissonner. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Un ange, c'est une créature. Un ange, c'est une créature. Un message. Quelle est la créature qui peut commander au Créateur? Vous savez bien que l'heure, l'impérium, comme on dit, commandement sur la détermination de l'heure, est réservé à l'Immaculée Conception. C'est la créature, ici, vous l'avez ici, c'est la reine qui a autorité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on met d'ailleurs un sceptre. C'est par rapport à l'heure de la fin du monde. Marie-Reine Immaculée. Et c'est dans l'écriture que vous avez ici, parce qu'il n'y a aucune autre interprétation possible. C'est une créature. Et si c'est une créature, ça peut être que ça. Vous voyez? Donc face au temps, l'Immaculée Conception en tant que reine, face au temps, elle confesse que ce temps n'existe plus. Elle confesse que ce temps, c'est le dernier temps. Elle confesse face au temps que c'est l'éternité qui arrive. Vous voyez, il y a une confession. Vous sentez bien que si l'Église, si tous les chrétiens et cathos vivent de tout sacrement, en vivant du fruit du sacrement, ça va donner son efficacité, n'est-ce pas, à la à l'activité de la Vierge. L'Immaculée Conception a autorité, mais elle ne donnera l'heure qu'à partir du moment où, l'Église de Jésus, le petit reste, là, ne sera en phase avec elle, évidemment. Elle ne fera jamais sans le mystère de la femme, qui est l'Église. Je crois que c'est assez clair. Donc nous, en tant que fruit, nous vivons avec elle. Et nous vivons face au temps, et on comprend que on peut dire, oui, à Jésus, Seigneur, c'est le moment. Tu laisses à travers toi l'Immaculée Conception dire à Jésus, Seigneur, c'est le moment. Allez, jette ta fossile, allez, moissonne, et qu'on en finisse avec tout ça. Qu'on en finisse avec le péché, quoi. Terminé. Si le péché dure encore, c'est parce qu'on ne le veut bien. Si le péché dure encore, ainsi que le mystère d'iniquité, c'est parce que les cathos le veulent bien. C'est les seuls responsables. Les autres qui ne sont pas cathos, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Alors, je reviens avec elle et je dis avec elle, Seigneur, Jésus, jette ta fossile, cela doit moissonner. Et il faut le vivre avec elle à fond. Face au temps, je confesse que ce temps n'est rien du tout, que ce temps est terminé et qu'il ne reste plus que l'éternité. Ça va ? Voilà, troisième confession. Face à notre temps. Face au péché, chapitre 16, le mystère de la coupe, elle qui est l'accueil du Verbe incarné, elle qui est l'icône visible de ce que l'Esprit Saint est invisiblement dans la très sainte Trinité. Ce que l'Esprit Saint est en acte, l'Immaculée Conception est en puissance. Il est accueil passif d'un amour éternel, elle est accueil passif d'un amour éternel. Il est accueil dans l'amour passif éternel dans sa personne incréée, elle est accueil dans l'amour passif éternel dans son amour, dans son cœur incréé. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle est en puissance parce que l'Esprit Saint est en acte. Elle est l'accueil elle-même. Voyez bien, elle est la coupe. Et les sept coupes de l'Apocalypse montrent comment Marie, en tant que coupe, confesse qu'elle est l'absolution du monde face au péché. Là, il faut lire, évidemment, tout ce chapitre extraordinaire sur les coupes. Oui, j'ai entendu une voix du temple qui criait aux sept anges, c'est-à-dire l'ange parfait, c'est Marie. Hein? Sept anges, ça veut dire l'ange parfait, l'ange total. Sept, ça veut dire total. La plénitude du messager, si vous voulez, la plénitude du message, allez répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Donc la coupe parfaite de la colère de Dieu, remplie des sept dons du Saint-Esprit, c'est l'Immaculée Conception qui confesse la colère de l'agneau, c'est-à-dire que le sang de Jésus vient laver tout le monde. Parce que dans la coupe, il y a le sang de Jésus, qui est la colère de Dieu, qui vient détruire tous les péchés du monde. Pas les pécheurs, mais les péchés. Alors, on répand les coupes. C'est très beau. Et on voit du coup ceux qui sont attachés à ces péchés, les pécheurs qui sont attachés à ces péchés, qui ne sont pas contents. Et les pécheurs qui ont ces péchés, mais qui ne sont pas attachés à ces péchés parce qu'ils disent j'en ai marre, je ne voudrais pas avoir péché, qui sont très contents. Deux tiers, un tiers. À chaque fois. Un tiers des hommes qui hurlent, c'est ceux qu'on entend le mieux, le plus, et deux tiers qui sont très contents. Face au péché, elle confesse qu'elle est. Elle est la coupe. Et donc, elle garde le sang de Jésus du début de la Pentecôte jusqu'à la fin du monde, pour tous les péchés du monde, aux instants où ils peuvent être recueillis. Alors, ça peut produire, bien entendu, la souffrance, la révolte. Parce que quand le Seigneur me demande une exigence, me demande quelque chose à me détacher, n'est-ce pas ? Me demande. À un moment donné, waouh, Seigneur, on fait trop, hein ? Alors, tu donnes ça, et hop! Alors, ouh! Alors, il y a la révolte, mais.
Non, mais on est gentil.
Hein? On sera enchanté, finalement, mais. Tu vois, il y a une révolte. Alors, c'est ça qui est beau, c'est de voir que l'Immaculée, il faut avec elle comprendre ce qu'elle fait. Elle donne la miséricorde sous un mode de purification, c'est certain. De libération, c'est certain aussi. De miséricorde, la colère de Dieu, c'est que son sang vient supprimer les péchés, vient nous libérer des péchés, vient nous pardonner des péchés, nous donner amour, la miséricorde, le don à la place de cette pourriture. Mais que nous, finalement, on découvre du coup à travers ça, enfin nous, les hommes découvrent à travers ça, on voit avec stupéfaction ce que voit l'Immaculée Conception. C'est que les hommes, finalement, sont contents, mais d'autres ne sont pas contents. En nous, il y a deux tiers hyper contents, et puis un tiers pas contents. Parce qu'on aimait bien quand même. Hein. Non, mais finalement. Ah, c'est pas mauvais. Chocolat, noisette et au lait, c'est bon, hein. Alors, donc il faut voir. Donc face au péché, elle est la coupe. Et nous sommes à ce moment-là avec elle la coupe. Et nous répandons tout le sang de Jésus sur tous les péchés du monde. Répandons. C'est elle qui est la coupe qui répand le sang de Jésus sur tous les péchés du monde. Sur tous les péchés du monde, de tous les temps et de tous les lieux. Cinquième icône de l'Immaculée Conception, chapitre 21, la Jérusalem céleste. Les coupes, chapitre 16, verset 1 à 10, je crois. La Jérusalem messianique, face au cosmos, face à la création, face au monde animal, face au monde végétal, face à une humanité qui est un petit qui face à une humanité aussi, qui est relativement. Qui est peut-être en dehors, si vous voulez, du mystère de la grâce, elle est là, Jérusalem céleste. Vous voyez ? Et je revis donc après ma pénitence ça, vous voyez, je peux faire 53 secondes avec le premier fruit, 53 secondes avec le second, 53 secondes avec le troisième, 53 avec le quatrième, et vous terminez de préférence avec le cinquième, qui est génial. Pas parce que c'est la Jérusalem. C'est, hein, alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, voilà la confession finale de l'Immaculée Conception, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez, elle s'est faite belle, hein, comme une jeune épousée parée pour son époux. J'entendis alors une présence clamée du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec Dieu, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alors l'un des sept anges, aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux, va me dire, viens que je te montre l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, le Verbe de Dieu. La montagne de grande hauteur, c'est toujours le Verbe de Dieu. C'est pour ça que Jésus... Donc, fait monter sur la montagne pour donner les béatitudes. Il amène ses disciples jusqu'au sommet de son mystère. Il est le Verbe. Et là, ils peuvent entendre les béatitudes. Il me transporta en esprit, me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, et en elle, la gloire de Dieu. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart d'une grande hauteur, pourvu de 12 portes. 12 portes, vous voyez, c'est extraordinaire, ce port. C'est 3, la très sainte Trinité, dans 4, toute la création, multipliée, c'est-à-dire substantiellement unie. C'est pas une addition. C'est ça, les portes de la Jérusalem céleste. Et l'Immaculée Conception, c'est là qu'on voit que l'Immaculée Conception fait un corps unique, hein, qui incorpore et la très sainte Trinité, et toutes les créatures, et chacun d'entre nous. Et tous les éléments de la matière et du cosmos et de la création. Et il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière, c'est Dieu qui l'illumine et l'agneau qui sert de flambeau. Et donc, elle confesse face au monde qu'elle est la Jérusalem céleste. Et du coup, le monde est incorporé dans cette lumière. Et je confesse ça, ça veut dire je confesse ce que je vis. C'est ça que je vis dans mon oraison après l'absolution. C'est ça que je vis. Réellement, en avant, les enfants. C'est la vérité. Voilà ce que je dois vivre dans la foi. Parce que la foi, c'est vivre réellement quelque chose, et si c'est vécu dans la charité, c'est réel. C'est éternellement vrai. Mais comme ça s'est incrusté dans le temps, de manière, il faudra très peu de gens. Combien, j'en sais rien. Peut-être qu'il suffira de 12. Si 12 l'ont vécu parfaitement, peut-être ça suffit. Non, mais faut, je sais pas, faut 153, puisque l'Église est 153. Faut 144 000, peut-être. Ça n'a rien. C'est pas ? Pour vivre ça, mystiquement, surnaturellement, théologalement, totalement, vraiment, à chaque fois je me confesse, je vis ce fruit-là. C'est beau. En tout cas, vous avez ici un schéma pour savoir comment on vit du fruit. Comment on tire de la reste du sacrement de confession son fruit. de manière vitale, expérimentale. C'est en réincarnant, mystiquement, réellement, vitalement, consciemment, lucidement, totalement, complètement, indépendamment de toute autre chose. Et exclusivement, et vraiment. La confession de l'Immaculée Conception. Et vous voyez la complémentarité extraordinaire qu'il y a entre le fruit du sacrement de la confession et le fruit du sacrement de l'Eucharistie. Puisque le fruit du sacrement de l'Eucharistie, c'est plutôt du corps mystique, du Christ. Et le fruit du sacrement de la confession, c'est plutôt du côté de l'absolution incarnée, qui est l'Immaculée Conception. Et les deux se rejoignant dans le don et la clé, du reste. À ce moment-là, ça y est, je commence à rentrer dans la possibilité, n'est-ce pas, de vivre à partir de la puissance du baptême, du sacerdoce royal, qui est le fruit et du sacrement de baptême, et de la conjonction du sacrement de baptême dans son fruit, avec le fruit du sacrement de l'ordre.
Quand on dit vivre, ça veut dire quoi ? Vivre.
Parce que
vivre dans ce
moment-là, tu le vis. Je te dis, 53 secondes, tu revis ça. L'Immaculée Conception, c'est toi. Tu es dans la peau de l'Immaculée Conception.
Ouais. Et puis après, on fait quoi ?
C'est tout éternel. C'est éternel. C'est surnaturel, c'est théologal, c'est mystique, c'est sous la flambée des ondes du Saint-Esprit, c'est conservé en l'Immaculée Conception. Mais c'est éternel, en tout cas, tu l'as fait. C'est pas resté en disant, moi... Mais c'est pour ça que c'est si important de vivre de l'adoration, présente réelle, et de la contemplation. Et donc mystiquement, c'est là qu'on voit que si on n'est pas mystique, on ne peut pas être chrétien. Sinon, à ce moment-là, je vais interpréter tout, Jérusalem céleste, les 144 000 élus, matériellement. Et ça va pas. Alors je vais rentrer dans un état de dévotion, tout ça. Et ça, ça va pas. Ça va pas. Ça, c'est le piège. Et je crois que c'est très important que Jésus est institué. Jésus a bien pensé son truc, hein, son machin, il a bien... Il avait réfléchi à son truc, je veux dire, c'est bien pensé son truc. C'est pas con du tout. C'est vrai. Et c'est simple. Évidemment, moi, je vous l'explique de manière compliquée, je suis d'accord. Mais si tu veux que je redise d'une manière simple, tu communies à l'Eucharistie, c'est bien. Bon, et puis tu dis, j'ai communié, c'est bien. Fais pas ça à l'ado, quoi. Non, tu le fais en adulte. Bon, et en adulte, comme un saint, comme l'Immaculée. Bon, parce que du coup, comme tu es l'Immaculée, tu as vécu de l'Immaculée, tu vas à la communion. C'est elle, à ce moment-là, qui reçoit l'Eucharistie suivante. Alors, à ce moment-là, alors après, l'action de grâce, quand Jésus ressuscité disparaît, c'est tout le corps mystique qui est présent en toi. Corps mystique de Jésus, voilà, c'est tout. Corps mystique de Jésus qui est là. Et puis tu fais raison avec ça, corps mystique de Jésus là, toutes les saintes là. Hein, et tu fais produire son fruit à ça. Et le fruit qu'on avait vu, hein, c'est-à-dire tu rentres dans les processions de la très sainte Trinité, l'attraction du Père, qui t'élastique, qui t'attire, et puis en même temps le monde qui n'est pas encore sauvé. Hein. Et l'éternité, qui, le temps dans lequel tu es, qui est fixé comme un rayon laser dans l'éternité. Puis en même temps, le temps reste là, quoi. Et en même temps, tu rentres dans la demeurance du Père, la péricorésie, c'est-à-dire tu es dans le Père est en toi. Tu es dans le Fils est en toi, et il est autour de toi. Et toi, tu es autour du Fils, et tu es autour du Père, et en même temps, le Père est autour de toi. Esprit Saint pareil, tu es dans la circum incession, tu es dans les relations trinitaires, troisième fruit, le corps mystique est comme ça, tu vis ça. Bon, ce qu'on a vu la dernière fois, mais c'est le corps mystique de Jésus. Puis après, tu vas te confesser, et après, si tu n'as jamais fait, les fruits, ils sont encore, tu n'as pas pressé encore, ça n'a pas pourri. Ça n'a pas pourri, c'est l'avantage de cette grappe-là. Pas pourri du tout. Et tu as gardé, ça fait 50 ans que tu t'es confessé, 50 ans que tu as communié, jamais tu n'as donné son fruit mystiquement au D'accord ? Eh bien, tu fais la récolte. Hop ! Tu fais la récolte, tu fais la vendange, tu récupères tout ça, et je prends tous les fruits, et ça fera plus de vin. C'est bon ? Et tu prends toutes les communions. Tu peux prendre aussi. Moi, c'est ce que je m'amuse à faire. Tout à fait, voilà. Ça, c'est... Je m'inspire. Je m'inspire de mon inspirateur principal, voilà, la matrice de toute notre sagesse communautaire. Je prends bien sûr toutes les communions que font les gens, toutes les confessions que font les gens, et qui ne leur font pas produire leurs fruits mystiques. Parce que l'un est le semeur, l'autre le moissonneur. C'est ce que dit Jésus. N'est-ce pas? Mais ce qui compte, vous comprenez, c'est petit à petit qu'on finit par comprendre notre responsabilité catholique, universelle, et éternelle, et efficace, et féconde, et sainte.
Et ça,
on
communique,
ça se confesse.
Oui.
On communique, ça se confesse, c'est la réponse. Qui est-ce qui fait ça? À tout le moins, une fois l'homme te confessera.
On peut aller comme une, n'est-ce pas?
Pardon?
Même pas, il y en a.
Ah, il y en a? Bah, écoutez, oui. Ah, bon. Bon, oui, mais moi, si vous voulez, si vous permettez, je ne parle pas de ceux qui ne le font pas, je parle de ceux qui le font. Hein? Parce que s'il fallait que je parle de ceux qui ne le font pas... Moi, j'avoue. Ah! Oh là là! Prenez déjà la vôtre, eh? Je veux dire. Non, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Il y a une chose que je vois que vous ne comprenez pas. C'est que quand vous êtes à la présence réelle, c'est une présence mystique, donc c'est Jésus ou Marie qui est présent, d'accord? Et c'est l'Esprit Saint qui va presser le fruit. Donc comprenez bien que c'est l'Esprit Saint. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça se fait instinctivement tout ça. Moi, je vous l'enseigne, je vous le dis parce que c'est révélé dans l'Écriture, c'est tout. Et puis, on en fait la théologie mystique, et puis c'est tout. On sait que c'est ça. Bon, et comme ça, ça permet de reconnaître. Mais dès qu'on reconnaît, on va plus vite. On le fait plus facilement, on coopère plus. On laisse plus de temps, on est plus disponible mystiquement. Mais c'est vrai que c'est la grâce et l'Esprit Saint à travers ses dons qui nous le fait. Donc c'est pas vous qui allez dire, bah attends, est-ce que je vais prendre la confession des gens qui en ont un? Non, ça c'est des calculs humains. Vous voyez? Il faut se laisser mouvoir petit à petit grâce à ça par l'Esprit Saint. Donc vous voyez cette espèce d'extraordinaire complémentarité entre le fruit donc, de l'Eucharistie et le fruit. Donc, qui est beaucoup plus finalement masculin, et puis le fruit du mystère de la confession qui est plus féminin, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, ce qui serait dommage, si vous voulez, c'est qu'on en reste là, parce que c'est évident qu'à chaque fois on parle d'une chose nouvelle. Donc, peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'il faut s'en rappeler, quoi. Il faut s'en rappeler, il faut essayer de se rappeler de ça. Il faut essayer de vivre ça, chaque communion, de cette présence. De toutes les parties du corps mystique de Jésus, l'Immaculé, Jésus ressuscité, qui faisant l'unité dans le Verbe. Et à chaque fois, vivre comme ça la communion. Il faut s'en rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour la confession, se rappeler toujours que le sang de Jésus coule, tout le sang de Jésus coule et me lave entièrement toutes mes fautes au moment de l'absolution. Et le mystère de la résurrection est réellement présent, ouvre en moi une possibilité de faire pénitence et fait que cette demande de pardon de Jésus crucifié face au Père, c'est moi qui la vive à sa place. Dans la pénitence. Et qu'à ce moment-là, ça y est, je suis introduit dans la procession de la lumière incréée du Père engendrant un Verbe, et que du coup, je suis placé dans l'unité d'amour des deux. Et arc électrique, il n'y a que cet amour. Éternel, vivant, pur. Et il faut vivre de ça. Et vivant de ça, comme je le vis à travers ma chair créée, je commence à comprendre ce que vit l'Immaculée Conception dans sa confession éternelle face au dragon, face au Père, face au temps, face au péché, face au monde. C'est facile. Que personne ne vienne me dire « Qu'est-ce que c'est compliqué ?» C'est l'enfance de l'art. Et il faut le faire. Je crois que c'est très très bien de le faire. Et il faut supplier bon Dieu de nous rappeler.